Bienvenue sur Fréquencier 97.9 FM pour l'émission Info Fouillis, réalisée et animée par les élèves de seconde de la cité scolaire Paul Scarron. Comme chaque semaine, c'est une dizaine d'élèves de la classe de seconde A qui va représenter des sujets qu'ils ont choisis pour vous. Pour certains et certaines, c'est une première expérience du direct et j'accueille dans le studio Emma, Corentin, Paul, Océane, Flavie, Maëlle, Colline, Clémentine et Nicolas. Et au programme de notre émission aujourd'hui, une rubrique Société et Actualité avec des grèves, des sapins, un pont effondré, et une rubrique culture et sport avec des Marvel et une série télévisée. Sans plus attendre, je donne la parole à Emma qui va nous parler d'un sujet d'actualité, la grève.
Bonjour, donc moi je vais vous parler de la grève. Selon Eureka, le droit de grève n'est pas une source de problème pour les patrons ou une bonne occasion de se distraire en allant bloquer le plus d'axes routiers possible. Il s'agit en France d'un droit à valeur constitutionnelle. Il est défini comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Tout salarié peut faire grève, mais uniquement dans le cadre d'un mouvement collectif et concerté. Deux personnes ou plus peuvent donc faire grève dans une entreprise, ou une personne seule si son mouvement s'inscrit dans une grève, dépassant sa seule entreprise. Nul n'a besoin d'être syndiqué pour faire jouer son droit de grève. Certaines catégories de personnel n'ont pas le droit de faire grève. Les personnels des services actifs de la police nationale, les membres des compagnies républicaines de sécurité, les magistrats judiciaires, les militaires, les personnels de services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur. Trois conditions doivent être réunies. Les salariés en grève doivent cesser complètement le travail, s'être concertés, donc avoir une volonté commune, avoir des revendications personnelles, comme par exemple l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation de salaire, etc. Faire grève ne donne pas tous les droits. Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes, le blocage de l'accès au lieu de travail, les dégradations de locaux ou de matériel ne relèvent pas de la grève et sont illicites. Ils peuvent être condamnés pénalement, tout comme les actes de violence. Les syndicats et les grévistes sont responsables des éventuels abus commis pendant une grève. L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation devant des tribunaux. La grève suspend le contrat de travail, mais ne le rompt pas, ce qui a plusieurs conséquences pour le gréviste. Si un accident survient pendant la grève, ça sera un accident de droit commun. L'employeur n'est plus le contenant du salarié, c'est-à-dire si le gréviste commet un dommage à un tiers, l'employeur ne sera pas responsable au nom de son salarié.
Merci Emma, tu peux reprendre ta respiration. Je vais donner la parole à Corentin maintenant pour un autre sujet tout à fait d'actualité également, puisqu'il s'agit des ces sapins de Noël qui ont fleuri dans toutes nos maisons depuis quelque temps.
C'est cela. D'où nous vient la tradition du sapin de Noël? D'après la télévision catholique, le début de cette tradition remonte des années 2000 à 1200 avant Jésus-Christ, avec les Celtes qui fêtent la renaissance du soleil en décorant un épicéa. Un épicéa, c'est un arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, donc du blé, des fleurs ou des fruits. Au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ses coutumes païennes, décida de christianiser ses coutumes. Elles ont donc été représentées dans de nombreuses pièces de théâtre chrétiennes. Mais la tradition du sapin de Noël est réellement apparue au XVIe siècle, pour la France, car c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces. On y découpait des arbres puis on les décorait avec des pommes rouges, le fruit défendu qui rappelle Adam et Ève. Ainsi, on les décorait aussi avec des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Et c'est à la fin du XIXe siècle que les Alsaciens ont fait connaître cette coutume à tous les Français. Si nous sommes passés des pommes rouges en décoration aux boules de Noël, c'est car durant un été, il y eut une grande sécheresse et tous les fruits des Vosges du Nord n'ont pas fleuri. Du coup, un souffleur de verre a décidé de remplacer tous ces fruits par des boules de toutes les couleurs, et ces boules ont petit à petit pris la place des fruits. Le sapin artificiel est-il plus ou moins écologique qu'un vrai sapin ? Eh bien, selon Futura Planet, le sapin artificiel est bien moins écologique qu'un vrai sapin, car contrairement au sapin naturel, qui est biodégradable et stocke du CO2, le sapin artificiel est constitué de plastique et de métaux. En moyenne, un sapin artificiel est conservé 6 ans, or il faudrait le garder au moins 20 ans pour que cela soit écologique. Malgré les avantages du sapin artificiel, il faut privilégier les vrais sapins. Bonne fête de fin d'année à vous tous.
Merci Corentin. Alors, qui sont les bons élèves ? Qui a un sapin artificiel chez lui ?
Moi.
Et les autres, donc un sapin naturel ?
Non, non, absolument pas.
Pas de sapin du tout, toi, Paul ?
Si. Mais naturel.
Naturel. Maël ? Non, Flavie, pardon.
Artificiel.
Artificiel. Bon, bah alors, ça va pas, on n'est pas très écologiste. Moi aussi, j'ai un sapin artificiel à la maison. Faut qu'on arrange ça. Merci en tout cas pour ce petit récapitulatif de l'histoire de cette tradition. Je passe désormais la parole à Paul qui va nous parler d'un autre sujet d'actualité puisque la route est glissante ces derniers temps et que le sujet choisi par Paul, ce sont les dangers qui nous attendent sur la route.
Oui, bonjour. Donc, d'après la sécurité routière, chaque année en France, près de 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d'alcool. Ces décès pourraient être évités si tous les conducteurs respectaient strictement la limitation légale. En ce qui concerne la drogue, les effets négatifs de la consommation de cannabis sur la conduite d'un véhicule sont encore méconnus, voire ignorés. En 2017, en France, ils ont estimé que 778 personnes ont été tuées sur les routes dans un accident avec stupéfiants, soit 23% de la mortalité routière. En ce qui concerne les médicaments, il y a entre 3 et 4% de morts. Pour éviter les problèmes, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Pour la vitesse. La vitesse est la première cause de mortalité routière. C'est un facteur déclencheur de l'accident, mais aussi un facteur aggravant. En ce qui concerne le téléphone. Le téléphone au volant est particulièrement répandu. Il multiplie par 3 le risque d'accident. En voici quelques conséquences. Augmentation du temps de réaction et de freinage. Réduction de la distance de sécurité. Difficulté à maintenir le véhicule dans la voie de circulation. Difficulté à maintenir la vitesse adaptée. Réduction du champ de vision. Provocation de stress, de tension, voire frustration à certains moments. Pour finir, nous allons parler de la fatigue. Un accident sur 3 est causé par la fatigue. Pourtant, les usagers de la route ont souvent du mal à évaluer le risque et ses conséquences. Donc faites bien attention sur la route.
Merci Paul. J'espère que les auditeurs prendront en compte ces derniers conseils. C'est à Océane maintenant de prendre la parole et elle va nous parler d'un pont qui s'est effondré.
Ouais. D'après l'AFP, des centaines de personnes ont participé samedi à la marche silencieuse à Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne. Pour rendre hommage à l'adolescente et au chauffeur d'un camion tué lors de l'effondrement d'un pont suspendu le 18 novembre. Quelques 500 à 600 personnes étaient présentes et des enfants à l'initiative de la marche se trouvaient en tête du cortège, a indiqué à l'AFP le maire de la petite commune d'un millier d'habitants. La gendarmerie, quant à elle, fait état de 300 personnes. Des roses fuchsia, et blanches ont été déposées sur le grillage, empêchant l'accès au pont effondré. Le poids excessif d'un camion de plus de 50 tonnes ayant emprunté le pont semblait à l'origine de l'accident. Selon le procureur de Toulouse, l'ouvrage, une structure métallique datant de 1931, surplombant par la rivière Tarn, pouvait supporter une charge maximum de 19 tonnes. L'ouvrage avait été inspecté en 2017 et a fait l'objet d'une visite de contrôle en décembre 2018. La piste d'un non-respect des procédures de service avait été écartée le jour même de l'accident par le conseil départemental. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires, avait annoncé le procureur Dominique Alzéari le lendemain du drame. Deux personnes ont trouvé la mort, une adolescente de 15 ans qui se trouvait dans la voiture avec sa mère et le conducteur du camion. Ce dernier était le gérant d'une entreprise de forage située à quelques centaines de mètres du pont.
Pardon, merci Océane pour ce rappel. Donc on voit bien que parfois aussi les accidents de la route sont dus à tout simplement le non-respect des consignes et des signalisations, ce qui peut arriver également. Flavie, à présent, nous allons changer de sujet et puis on va parler sport à présent, puisque tu vas nous expliquer un petit peu le palmarès de Teddy Riner.
Alors je vais vous parler d'un champion de judo, tout le monde connaît Teddy Riner. D'après Wikipédia, il est né le 7 avril 1989 aux Abîmes en Guadeloupe. C'est un judoka français évoluant dans sa catégorie de plus de 5 kilos. À partir de 13 ans, il fait du judo son domaine de prédilection et pratique au sein du judo club Bolivar des Buttes-Chaumont. En 2004, il enchaîne les championnats de France cadets et intègre le pôle espoir de Petite Couronne. Son palmarès, en 2005, médaille de bronze au championnat d'Europe junior plus de 100 kilos. En 2006 ainsi qu'en 2007, médaille d'or au championnat d'Europe et du monde de plus de 100 kilos. En 2012, médaille d'or aux Jeux Olympiques. En 2015, il parvient à être médaille d'or au championnat du monde et de France. Il est détenteur d'un record de 10 titres champion du monde, champion olympique à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016, médaille de bronze à Pékin en 2008, mais aussi quintuple champion d'Europe. Il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF en 2018. Il a également été le porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Il devient le judoka le plus titré de l'histoire. Il intègre le Paris Saint-Germain judo en 2017 avec un objectif en 3e titre olympique en 2020. Il se déclare prêt à continuer sa carrière sportive jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Nous sommes tous derrière lui, allez Teddy.
Merci, c'est à présent la pause musicale et nous allons écouter Bienvenue chez moi de Big Flo et Oli.
Déjà parlé de Bordeaux, sur les quais on aime appeler les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau.
Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Mais pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant. Un havre de paix quand je suis passé par Rouen.
Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes. Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre. Senti petit, senti ch'ti dans le décor. Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors.
Je suis passé par Lyon et j'ai pas compris tout de suite. Quand je disais bonjour, on me répondait 6-9 la trique. J'ai traîné place Bellecour avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Saint-Etienne, y'a que des connards.
Faut que je te parle de Marseille, son port, ses ruelles un peu crades. Et j'ai même pris l'accent en chantant dans le stade. Au milieu de ses grandes gueules, moi j'en menais pas large. J'ai entendu des cigales, mais pas le bruit des calages.
Je suis allé à Saint-Etienne prendre un peu l'air. On m'a forcé à enfiler un foutu maillot vert. J'ai traîné rue des Martyrs avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Lyon, y'a que des connards.
Bienvenue chez moi. Que tu viennes d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
À Brest et Rennes, je me suis senti un peu con quand les gens m'ont dit qu'ils étaient pas français mais bretons. Des marins au grand cœur, un petit peu trop ivre, naviguant sur une mer de cidre.
Une journée à Paris et Notre-Dame a fait une scène. Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent. Elle est pressante et oppressante, elle est stressante et cruelle. Elle est blessante, elle est glaçante, mais putain ce qu'elle est belle.
Je suis allé sur une île, le volcan m'a ouvert ses bras. Et l'océan m'a chuchoté, la Réunion l'est là. Y'a pas de religion ou de couleur sur la photo. Une engueulade c'est aussi rare que de voir un dodo.
Tu connais pas Montpellier ? La plage est tout près d'ici, on passe toute l'après-midi, place de la comédie. On prend le temps mais viens pas croire qu'on est feignant. Des arènes de Nîmes jusqu'au palmier de Perpignan.
Je suis allé à Strasbourg, je suis revenu avec du Kouglof sous le coude. C'est fou, j'ai encore dans la bouche le goût de la choucroute. Les charmes des limites de l'Hexagone. Et j'écris cette phrase avec la plume d'une cigogne.
Bienvenue chez moi. Que tu viennes d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
moi. Je suis allé en Belgique, logique, j'ai fait le plein de frites. J'ai cru voir de la pierre sortir du mannequin bis. Y'a de la vie quand le carré s'anime. Je suis tellement allé, j'ai l'impression de voir de la famille. Bah oui.
À Nantes, j'ai commencé un safari géant. J'ai croisé des canaris, volé autour d'un éléphant. J'ai vu des kickers, des skippers, des kiffers. Le seul endroit où j'ai croisé des dealers, de petits beurs.
Je me suis posé en Suisse, calmement, près des signes, sur les rives. La Clément, j'ai coupé mon attel pour pas qu'on m'appelle là-bas. J'ai abusé sur les mentales et la montagne de chocolat.
Première fois en Corse, le choc, la terre, la mer. Au début, j'ai eu du mal avec le caractère. Sur la terrasse, les plaques des vieux m'ont fait rire. Je voulais plus partir, plus remonter dans le ferry.
J'suis né à Toulouse, forcément, j'suis pas vraiment honnête.
Elle a vu mes premiers pas et m'a porté chaque seconde.
Et tu demanderas à tous ceux qui la connaissent, ils te diront que
c'est la plus belle ville du monde. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
Tu sais qu'à Nantes, il y a un éléphant, mais genre il est automatisé et il avance et tout, genre il bouge dans la ville.
Qu'est-ce que tu dis, frère?
Non, mais je te jure que c'est vrai, ça. C'est un truc, c'est un éléphant, mais genre un robot éléphant.
Ah ouais, putain, mais tu.
C'est un éléphant, mais un robot.
Info Fouillis continue, nous sommes toujours en compagnie des élèves de secondaire. Et je vais passer à présent la parole à Maël, qui va nous parler de sa visite du château de Chambord, quand
oui,
il
tout
était
à
jeune.
Fait. Donc je vais vous parler du château de Chambord. Donc le château de Chambord, donc, d'après Wikipédia, il fut construit dans le plus grand parc forestier clos d'Europe. Donc il fait environ 50 mètres carrés, le parc forestier. Il est entouré par une muraille de 32 km de long. C'est le plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin agrémenté d'un parc de chasse classé monument historique de Chambord. Et le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Le site a d'abord accueilli une motte féodale, ainsi que l'ancien château des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au XVIe siècle, et au règne du roi François Ier, qui supervise son édification à partir de 1519. Le château et son domaine se sont vus octroyer plusieurs distinctions. Inscription au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science et de la culture, donc l'UNESCO. Il est classé depuis 2000 dans la zone de classement de la région naturelle du Val-de-Loire, qui se situe entre Souilly-sur-Loire et Chalon-sur-Loire, ainsi que dans le réseau Natura 2000 en 2006. Il est également classé sur la première liste française des monuments historiques en 1840 et est reconnu établissement public à caractère industriel et commercial depuis 2005 et constitue l'une des composantes du réseau des résidences royales européennes. Donc, je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, le château de Chambord, il vient du gaulois Camborito, qui signifie passage sur la courbe. C'est un gué dans la courbe d'une rivière. Ce gué crée un marécage sur lequel est construit un pont mentionné dès 1307 dans le testament des comtes de Blois, Hugues II de Blois-Châtillon. Donc, je vais vous situer le château. Donc, le château, il se situe dans la région naturelle de la Sologne, sur une courbe du Causson. C'est un petit affluent du Brevent qui lui-même est affluent de la Loire. Il se situe à environ 6 km de la rive gauche de la Loire. Il est positionné à 14 km à l'est de Blois, à 40 km au sud-ouest d'Orléans et enfin à 164 km au sud de Paris, sur les territoires de la commune française de Chambord, dans l'arrondissement de Blois. Le département de la Loire et Cher est la région Centre-Val de Loire. Donc si vous voulez vous rendre au château, vous pouvez emprunter par exemple la ligne d'autocar 2 et 18, du réseau de transport commun des transports de l'Orécherve, donc qui desservent toute la région de Chambord. Donc pour partir, le point de départ pour aller à Chambord, c'est la gare ferroviaire de Blois. Et vous pouvez aussi accéder par la petite route départementale 33 qui traverse le domaine donc du château, et la sortie 16 de l'autoroute A10 qui est située à 14 km du château. Donc en 2017, le domaine dont le jardin et le parc sont classés monuments historiques. Donc ils ont accueilli 916 888 personnes qui sont venues visiter le château, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport à 2016 et 133 000 amateurs d'activités et de loisirs. Au premier semestre 2017, le domaine avait enregistré un premier record de fréquentation avec 370 000 visiteurs. Donc, d'après le site officiel du château de Chambord, il possède 440 pièces, dont 262 cheminées, 350 fenêtres et 73 escaliers, le tout réparti sur 4 étages. Et aussi, 800 chapiteaux qui ornent le château. J'espère que vous irez visiter le château.
Alors toi, tu l'as visité, ce château ?
Oui, je l'ai visité il y a 2 ans et j'en ai de très bons souvenirs.
Alors, qu'est-ce qui t'avait marqué particulièrement ?
Bah, notamment la vue qu'on avait depuis le haut du château. Et puis, ce qui m'avait aussi impressionné, c'était la grandeur du château. Parce qu'avant, ils n'avaient pas vraiment de moyens pour construire tous les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était assez impressionnant.
Ouais, mais en même temps, ils construisaient, ça durait quand même 400 ans. Sans problème, quoi. À méditer, sans doute, aujourd'hui, où les bâtiments s'effondrent beaucoup plus vite. Bien, on va changer complètement d'époque et on va arriver au 21e siècle, voire au-delà, puisque Colline va nous parler des Marvel.
L'univers du cinéma Marvel est une franchise cinématographique, donc une propriété intellectuelle mettant en scène des éléments de fiction. La création de cet univers filmique s'apparente à ce que proposait Stan Lee, qui est le créateur de nombreux personnages dans les comics. Le MCU est produit par Marvel Studios, qui à présent est la propriété de Walt Disney Company. Il met en scène des personnages de bande dessinée de l'éditeur Marvel Comics. Les films faisant partie de cet univers mettent à l'origine en vedette les Avengers, un groupe de super-héros comprenant Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et bien d'autres. C'est le film Iron Man, sorti en 2008, qui lança cet univers. En juillet 2019, 23 films sont sortis en salle, cumulant plus de 20 milliards de dollars de recettes mondiales, constituant en partie les 3 premières phases de la construction de cet univers. Les films du MCU sont également connus pour leurs scènes post-génériques, étant devenues la marque de fabrique du studio. Elles aident particulièrement à introduire de nouveaux personnages. Le MCU introduit également dans son univers de nombreuses séries, comme les Agents du Shield ou encore Loki, prévues pour 2021. C'est le film Avengers Endgame, la seconde partie d'Avengers Infinity War, qui termina le premier cycle, lié à l'histoire de Thanos et des 6 pierres d'infinité. Même si ce blockbuster fut un énorme succès, concluant un chapitre du MCU, il n'en est pas fini pour autant. D'autres films sont déjà planifiés à venir, notamment Black Widow en avril 2020, Spider-Man 3 en 2021 et Les Gardiens de la Galaxie volume 3 pour 2022.
Merci Colline, alors j'imagine que tu es une grande fan des Marvel.
Oui, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans ?
Bah, l'action et l'histoire autour des héros.
Des héros ou des héros ?
Des super-héros.
Des super-héros, d'accord, très bien. Merci, c'est à Clémentine maintenant. On reste dans l'univers visuel-télévisuel, puisqu'on va parler d'une série de TF1.
Le 18 novembre dernier, une mini-série télévisée nommée « Le Bazar de la Charité » réalisé par Alexandre Laurent a commencé et a remporté un vif succès auprès des téléspectateurs. Celle-ci parle d'un terrible incendie qui s'est produit et raconte une tragédie bien réelle qui a fait 132 morts. Le bazar de la charité est une vente de bienfaisance qui dure 4 jours organisée par le financier Blount. Il s'agissait de vendre des objets d'art, bibelots, tableaux, bijoux, livres et toutes pièces provenant de dons au profit des pauvres. Il y a majoritairement des femmes qui viennent avec leurs bonnes et leurs enfants. Pour occuper les enfants, ils étaient même prévus que la projection de films des Frères Lumière dans la salle de cinéma. Cette salle est située sous un apprenti dont l'entrepreneur déplorait, lors de la construction, le manque de place pour stocker les matières inflammables. C'est le 4 mai 1897 à Paris, vers 16h16, que s'est déroulé le drame. D'après Wikipédia, on sait que c'est à cause d'une maladresse du projectionniste en charge du cinématographe que le bâtiment s'est embrasé. En détail, il est dit que la lampe de projection du cinématographe a épuisé sa réserve d'éther et pour la remplir, le projectionniste demande à son assistant de l'éclairer, mais ce dernier commet alors l'erreur d'allumer une allumette et les vapeurs d'éther s'enflamment. Le bazar de la charité s'embrase en quelques minutes et l'édifice n'aurait mis que 45 minutes avant d'être réduit en cendres. Les femmes sont les principales victimes de cette tragédie, surtout avec la matière hautement inflammable de leur robe. On parle de 123 femmes retrouvées mortes contre 9 hommes sur 1200 personnes présentes. Parmi les victimes, essentiellement des femmes de la bourgeoisie, dont la duchesse d'Alençon, petite sœur de Sicile impératrice. La presse, à la suite de cet incendie, dénonce la lâcheté des hommes qui aurait bousculé et piétiné les femmes, présentées pour sauver leur peau et sorties du bâtiment en feu. Mais en réaction, des journaux comme le Gaulois ou le Journal du Loiret soulignent le rôle positif de certains hommes pendant l'évacuation. Les pompiers sont arrivés sur les lieux en à peine 10 minutes, sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas trop de moyens, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose. Cet incendie est à l'origine des réglementations sur la sécurité, l'évacuation et les matériaux de construction des lieux publics. Le premier épisode du Bazar de la Charité sera diffusé le 26 décembre sur Netflix, puisque la plateforme de streaming a cofinancé la série et bénéficiera des droits à l'international et en France une fois la diffusion terminée.
Merci Clémentine. Alors j'enchaîne rapidement parce que le temps va nous manquer. Donc c'est à Nicolas maintenant de prendre la parole et qui va nous parler de sa passion pour les jeux vidéo et plus précisément des jeux de gestion.
Donc bonjour à tous et à toutes. Donc comme vous l'avez déjà entendu, aujourd'hui je vais vous parler des jeux de gestion. Mais avant de commencer, je vais vous dire que les sources, ma source est principalement Wikipédia. Vous pourrez aller vérifier si vous voulez. Donc ce mode de jeu est plutôt vaste, cela va aussi dépendre du jeu. Mais généralement, ce but est faire prospérer son village ou sa demeure. Et d'ailleurs, même le lieu que vous devrez faire prospérer dépendra aussi lui-même du jeu. Pour vous occuper d'un hôpital ou d'un village. Et aussi, il faut essayer d'avoir le maximum de ressources. Pour ne pas faire face aux différentes contraintes. Bien sûr, ces contraintes aussi vont dépendre et sont parfois très punitives. Prenons l'exemple de Fallout Shelter. Dans ce jeu post-apocalyptique, où le monde a été frappé par des bombes nucléaires, des abris atomiques ont été créés pour faire en sorte que des survivants viennent s'abriter. Le monde est devenu hostile et vous devez survivre, vous êtes en tant que superviseur. Vous devrez donc gérer vos habitants, la nourriture et vos trois barres qui seront représentées. Ces trois barres-là représentent la nourriture, l'eau et l'électricité. Il faut savoir que la nourriture et l'eau sont créées grâce à des salles qui ont besoin d'électricité. Donc si vous arrivez par malheur de manquer d'électricité, certaines salles servant à la création de nourriture, par exemple, seront éteintes et ne pourront donc plus produire. Pareil pour s'il vous manque de l'eau, certains de vos habitants seront déshydratés et donc affaiblis. Et dans un monde où les attaques de pillards sont fréquentes, il faudrait que vos habitants aient une vie pleine pour pouvoir se défendre. Après, les jeux de gestion vous demanderont de gérer différentes choses. Cela peut passer par l'économie, ou encore construire différentes villes ou mettre en place des infrastructures. Pour vous donner l'exemple de ce type de jeu, nous avons SimCity ou encore Kaisar. D'ailleurs, ces jeux de gestion sont appelés City Builder. Donc voilà, je m'arrête ici aujourd'hui sur les jeux de gestion. N'hésitez pas à vous documenter sur les autres types de jeux de gestion.
Merci Nicolas. Alors t'aimes bien ce genre de jeu, qu'est-ce que ça t'apporte en particulier par rapport à d'autres jeux? Alors tout le monde joue à Fortnite, mais alors toi tu joues aux jeux de gestion, alors pourquoi?
Bah je trouve ça plus, on va dire, rafraîchissant parce que je jouais aussi beaucoup à ces jeux-là, donc ça a aussi changé pas mal de choses, et en plus ça m'a un peu aidé à m'organiser.
Ah vraiment? Donc tu vas arriver avec tes affaires en classe maintenant?
Oui, plus d'affaires qu'avant en tout cas.
D'accord, mais j'espère. Écoute, ce sera parfait. Continue les jeux de gestion alors, Nicolas. Merci. Voilà, Info Fouilly, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous souhaitez réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet fréquencier.org ou sur la page Facebook de Fréquencier. Nous remercions Gabriel à la technique et vous souhaitons un agréable week-end. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.